France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagny à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Jérôme Ragano à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Bonjour à tous. Je vous remercie, c'est incroyable, the amount of energy.
Toute cette énergie, c'est difficile pour moi de vous parler. Je ne sais pas si ça va être la dernière fois que je serai ici devant vous tous. Honnêtement, je ne suis pas sûr à 100%, mais si c'est la dernière fois, j'en ai profité. C'est incroyable tout ce que j'ai pu ressentir dans cet endroit que j'aime le plus au monde.
Ah, c'était les adieux de Rafael Nadal à Roland-Garros. C'était l'année dernière, vous noterez qu'il a dit « si c'est la dernière fois », un conditionnel qui peut parfois rassurer. Les dernières fois où comment défier la nostalgie, Sophie Galabru et Marina Carrère-Dancos sont nos invités. Sophie Galabru publie un essai chez Alary Éditions intitulé « Nos dernières fois ». Marina Carrère-Dancos, nous avons eu envie de vous entendre sur ce sujet des dernières fois parce que vous avez mené une enquête très personnelle pour un documentaire sur la fin de vie et un autre sur l'alcoolisme au féminin interviewant des femmes qui ont été alcooliques et qui ont arrêté de boire. Peut-on jamais dire d'ailleurs que ce vers-ci sera le dernier, pour bon nombre d'entre elles en tout cas, ou de ceux aussi, hein, qui sont passés par cet enfer, le dernier vers ouvre la voie d'une résurrection. Sophie Galabru, votre essai, évidemment, et ça n'étonnera personne, puisque vous êtes philosophe, a une portée philosophique, et pourtant, il est extrêmement personnel, et vous vous demandez pourquoi vous êtes devenue, je vous cite, « consciente, si consciente, des bords et des extrémités du moment ». Est-ce que vous avez un début de réponse après la réflexion que vous avez menée dans ce livre ?
Oui, c'est vrai que j'étais très consciente du temps très jeune, mais en fait les enfants ont une prise de conscience du temps qui passe, ça fait partie de leur première découverte philosophique. Après, ça vient peut-être plus précocement quand on a des expériences précoces d'irréversibilité, c'est-à-dire de ça peut être perdre un copain d'école, ça peut être plus lourd, voir ses parents se séparer, moi c'était mon cas, ou perdre quelqu'un dans sa famille, découvrir la mort. Donc il y a des expériences de jamais plus qui vous initient rapidement à la notion du temps, que les choses ne sont pas immuables, qu'elles évoluent sans cesse. Ouais.
Et alors vous dites que vous avez été longtemps captive de cette phrase d'Héraclite, nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve, et aussi que vous êtes captivée. Je souris, mais il n'y a pourtant pas de quoi rire, parce qu'il y a certainement évidemment une angoisse et une souffrance derrière, en tout cas la très jeune femme qui s'est posée ces questions. Vous êtes captivée par la catastrophe de Pompéi et l'éruption du Vésuve.
Mais oui, je dis ça à la fin du bouquin pour dire que c'est des moments... c'est un moment de dernière fois particulier parce qu'en plus il est cristallisé ou figé et que je trouve fascinant parce que c'est la captation, la fixation de gens qui sont surpris, qui ne voient pas leur dernière fois arriver, qui sont figés pour toujours. C'est quelque chose d'émouvant pour moi qui était fascinée par ces dernières fois. Ouais.
Notre existence n'est tissée, on n'y réfléchit peut-être pas forcément, mais n'est tissée que de dernières fois et par conséquent aussi de premières fois. Mais là aussi vous dites les premières fois ont une insolence que les dernières n'ont pas.
Oui, mais c'est vrai que chaque instant, par définition, parce que le temps a pour qualité d'être irréversible, sont premiers et derniers. Simplement, pour des raisons qu'on pourrait discuter, on a tendance à, pour raconter sa vie, ou en tout cas pour l'organiser, à apercevoir des premières fois ou des dernières. Souvent, c'est des moments de vie qui sont remarquables, soit parce qu'ils sont nouveaux, surprenants, qu'ils nous initient à quelque chose, soit parce qu'ils ont l'air de clôturer. Parfois, ça va ensemble. Pas toujours. Parfois, il y a des dernières fois qui donnent lieu à rien, qui sont des coups d'arrêt, des échecs, des finalisations. Et puis, il faut un temps avant qu'il y ait un redémarrage. Puis parfois, ça coïncide. Ouais.
Et il y a des dernières fois totalement invisibles. impalpable,
intangible. La plupart du temps, on ne les voit pas venir. Alors, on a le fantasme, souvent, parce qu'on souffre rétroactivement, on voudrait avoir vu venir. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un fantasme si pertinent. Je crois qu'on est très content de ne pas les avoir vu venir, en fait.
Marina Carrère-Dancos, est-ce que vous êtes, comme Sophie Galabru, une obsédée du dernier moment?
Mais d'abord, je voudrais juste préciser que ce livre est absolument passionnant.
Le livre de
vraiment,
Sophie Galabru.
Tout à fait passionnant. Et je vous l'avais dit, pour moi qui n'ai jamais fait de philo de ma vie, puisqu'en terminale, je n'ai pas eu de cours de philo, extrêmement accessible.
Vous avez quand même eu votre bac, puisque vous êtes médecin, à mon avis, vous avez eu votre
bac. J'ai eu mon bac.
Alors comment vous avez fait pour l'épreuve de
philo? J'ai fait une épreuve de français, parce que comme je n'avais pas fait de philo, et comme j'étais mauvaise en français, j'ai eu une mauvaise note en français et une mauvaise note en philo.
Vous avez dû avoir de bonnes notes
en sciences, voilà. Donc c'est ça qui m'a sauvée. Mais en tout cas, c'est extrêmement accessible pour des gens qui n'ont aucune notion de philo, donc ça c'est passionnant. Et ce qui m'a fascinée, c'est que, effectivement, ce qui est essentiel, c'est ce temps. Ce temps qui passe, effectivement, on ne voit pas arriver les dernières fois, et qui chez moi est, je pense, biaisé, parce que j'ai eu un très grave accident quand j'avais 25 ans, où j'ai failli mourir. Et depuis, moi, je suis en sursis. C'est-à-dire, tout ce que je le vis de manière totalement intense. Intense à un point que je ne supporte pas qu'on me gâche un moment qui doit être beau, mais de manière intense. Et ça change beaucoup le fait que si une dernière fois arrive, je n'ai pas de regret parce que j'ai tellement vécu intensément les moments que voilà, ils arrivent et c'est inéluctable, mais je n'ai pas l'impression d'être passée à côté de grand-chose.
C'est
formidable.
C'est une philosophie de vie fabuleuse, ça, non?
Bah oui, mais c'est l'idée. Enfin, je ne sais pas, j'interprète que quand on a vu la dernière des dernières, quand on a vu la dernière fois la plus ultime, on a peut-être par contraste et relief la saveur et le goût de la vie. Et puis, on sait aussi que la dernière fois peut arriver même précocement. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on peut avoir et qui peut nous hanter jeunes. Parce qu'il y a souvent des gens qui me disent « mais vous êtes jeune pour parler de ça ». Mais en fait, comme disait d'ailleurs Heidegger, pour citer un philosophe, on n'est jamais trop jeune pour mourir. Donc, en fait, ce sujet-là, il arrive très tôt, parfois. Et la notion de dernière fois, elle peut intensifier la vie. Alors après, moi, je pose la question, est-ce qu'il faut toujours intensifier sa vie et faire comme si chaque instant était le dernier? Je pense que ça peut être parfois, oui, esthétisant, intensifiant, mais parfois aussi dramatisant.
Ça peut être difficile et douloureux.
Bah oui.
Et c'est vrai que, par exemple, ce que je vous disais, quand on me gâche un moment dont j'attends beaucoup, une réunion familiale, une jolie réunion d'amis, un spectacle, enfin tout ce qui peut arriver, si on me le gâche, je suis extrêmement malheureuse. Profondément malheureuse, qui n'a pas d'intérêt, en l'occurrence, parce que c'est juste un moment qui est passé et d'autres arriveront. Mais je le supporte très très mal parce que j'ai trop mesuré à quel point la vie pouvait s'arrêter.
Alors Marina Carrère-Dancos, on va vous entendre dans un moment, disons, très particulier de votre vie.
C'est presque la fin de cette émission. Donc, en tout cas, c'est la dernière pour moi, puisqu'aujourd'hui je quitte le magazine de la santé, avec émotion, avec bien sûr un petit peu de tristesse. Et je voulais infiniment vous remercier, d'abord vous téléspectateurs, pour ces 26 années de fidélité, 26 années d'aide, grâce à tous vos témoignages, toutes vos remarques, toutes vos questions qui nous ont permis de mieux comprendre vos attentes et vos envies. 26 années de bienveillance envers moi, de gentillesse, de soutien, ça je ne l'oublierai jamais. Je voulais bien sûr aussi remercier ceux grâce à qui cette émission existe, ceux qui y ont cru dès le début alors que l'émission durait 7 minutes. Chemin parcouru. Bien sûr et avant tout, c'est Michel qui m'a entraîné avec lui dans cette incroyable aventure. Merci Mimi. Je ne vais citer nominalement personne d'autre pour ne pas risquer de blesser un oublié, mais merci évidemment à ceux sans qui cette émission n'existerait pas. C'est facile, hein, vous savez, d'être devant la caméra quand on sait que tout a été préparé avec intelligence, avec compétence, avec éthique. Et c'est ce que vont assurer les rédacteurs en chef, les journalistes, la programmatrice, les chefs opérateurs, les monteurs, les infographistes, les chroniqueurs et bien sûr les équipes de production et de documentation durant ces 26 années. Avec eux tous, j'ai vécu plus qu'une magnifique histoire professionnelle, une histoire amicale, voire familiale. Et c'est ce que l'on fait de plus beau. Alors à tous, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir donné le meilleur de vous-même. Donc merci mille fois. Au revoir et à très bientôt.
C'est quand même un moment sacrément émouvant de sa vie, même s'il est anticipé, provoqué, préparé et rendu public aussi. Ça change un peu la donne, non?
C'est une carrière d'angoisse.
Absolument, c'était compliqué à appréhender. Parce qu'effectivement, 26 ans, c'est 26 ans de contact quotidien, direct, c'est absolument énorme. C'est une énorme partie de sa vie. J'étais pas vraiment anxieuse. J'ai été très émue au moment où c'est arrivé. J'avais pas tellement d'émotions avant. Quand c'est arrivé, c'était terrible. Mais il y a quelque chose, peut-être que ça va vous titiller, mais c'était une émission, comme le vendredi, on était enregistré. C'était pas la dernière. Donc j'ai fait ces adieux alors que j'en avais encore deux à tourner en direct.
Et ça vous a aidé?
Non. Ça m'a perturbée.
Ça vous a perturbée?
Ça m'a perturbée parce que c'était pas la vraie dernière. J'ai dit au revoir alors que j'ai dit bonjour le lendemain. Mais c'était extrêmement émouvant. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal si je prenais ma retraite, par exemple, et si je continuais pas dans ce métier, dans cette passion qui est l'information médicale.
Vous continuez, vous faites des documentaires, vous êtes sur France Culture
voilà,
le samedi matin.
Je continue à pouvoir transmettre cette information, donc, et à rencontrer surtout des soignants et des patients passionnants. Donc, c'est pas la fin. Mes 26 ans qui s'arrêtent, c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer.
Mais quand on sait, même si on sait que c'est la fin, par exemple, quand on prend sa retraite, est-ce qu'on peut vraiment s'y préparer? Est-ce qu'il y a toujours une surprise, et est-ce qu'on peut faire une mauvaise surprise en l'occurrence, ou quelquefois une bonne d'ailleurs, et est-ce qu'on peut au fond arriver à souffrir des choses même avec une certaine vitalité?
D'abord, oui, je pense qu'on peut préparer. C'est vrai que la retraite, c'est censé être un moment intégré de la vie professionnelle. On sait que toute vie professionnelle aura une fin. Alors ça dépend, remarquez, il y a des professions, notamment les artistes, qui peuvent essayer d'aller jusqu'au bout et la fin de leur métier coïncide avec la fin de leur vie, ça existe aussi. Il y a d'autres métiers comme les sportifs, on a entendu Nadal, c'est
oui.
Intégré qu'il y aura une fin assez précoce dans leur vie. Mmh. Alors Nadal, il n'a pas trop envie justement de se préparer ou de décréter que ça va être la dernière, parce que c'est difficile, il y en a qui n'ont pas envie, qui ont envie de sentir sur le moment. Mais en tout cas, oui, on peut s'y préparer, mais c'est pas parce qu'on fixe une date, qu'on anticipe, qu'on se prépare mentalement, qu'on imagine même la fête de départ, que sur le moment, il n'y aura pas des choses qu'on n'a pas pu... Il y aura une émotion irréductible qui ne s'anticipe pas, qui ne s'imagine pas, ça.
Les rituels d'adieu, ça n'aide pas forcément, en fait.
Si, je pense que ça peut être une sorte d'entraînement mental, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre l'entraînement mental et le vécu émotif, il y a un écart irréductible. Donc, on ne peut pas s'y préparer complètement.
Sophie Galabru, Marina Carrère d'Encausse, vous êtes donc les invités de leur philo et nous parlons, mais ça vous l'avez déjà compris, des dernières fois. One Foot, c'est Green Tea Peng sur France Inter.
One foot front and back again. Don't tell me to be like this until the end. I'm learning to serve my friend. These treacherous oceans. I'm fucking exhausted. Messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? One foot front and back again. That's just the comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me?
Vous savez, l'Assemblée nationale débat jusqu'à mardi prochain de la proposition de loi relative à la fin de vie et aux soins palliatifs. Dans quelles conditions peut-on créer un droit à l'aide à mourir? C'est un sujet aussi crucial que douloureux pour lequel il paraît difficile de dépasser ses convictions personnelles. Mourir, c'est aussi une dernière fois. Et je voudrais que l'on écoute le témoignage de Pierre Cousin. Pierre Cousin a choisi de mourir en Belgique le 24 avril dernier, deux jours avant. Il en expliquait les raisons à Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous sur France 5.
Le problème, c'est que la dépendance, effectivement, c'est un carcan dans lequel on sait que quand on est malade d'une maladie telle que Parkinson, on va aller s'enfermer de plus en plus, en fait. On a une prison qui va faire 10 mètres carrés, 9 mètres carrés, 8 mètres carrés, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit repris dans un dé à coudre et qu'on ne puisse plus rien faire par soi-même. Et dans ces cas-là, on devient un poids pour ses proches, un poids pour la société, quelque part, mais c'est une charge mentale en plus à gérer, en fait, derrière cette maladie. Donc c'est vrai que, la dépendance à laquelle je m'amenais en fait désespérément, non, c'était trop. De toute façon, je voulais pas pouvoir dire au revoir à mes proches coincés dans un lit d'hôpital avec la seule solution de dire au revoir entre deux passages infirmières. Mon premier message, c'est déjà qu'on en parle. Je veux dire, qu'on dise qu'on est d'accord, pas d'accord, mais qu'on en parle. Je veux dire, Charles Bietri l'a dit, ce projet de loi ne sera de toute façon qu'un premier pas pour discuter de la fin de vie. Qu'on regarde effectivement du côté des Belges, parce que les Belges ont un...
20 ans d'expérience.
20 ans d'expérience et une loi plus permissive que la nôtre. Je veux dire, en France, dans le texte qui est en train de se procurer, en fait, l'Assemblée nationale, il faut déjà être dans des conditions de mourir pour pouvoir avoir le droit de mourir. Alors que la Belgique n'est pas du tout dans ces conditions-là. Je veux dire, et depuis le début de ma fin de vie FAIM, j'ai jamais été aussi accompagné, aussi aidé, aussi soutenu, et pas du tout abandonné, que ce soit par mes proches, que ce soit par le corps médical, que ce soit par les soignants. Il y en a beaucoup qui m'ont dit merci aussi de ce chemin de vie et de les avoir apportés. Les avoir portés sur un autre niveau, justement, de les avoir aidés à trouver des mots sur la problématique de la fin de vie.
Marina Karadanko, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous avez vous-même mené une enquête en France, en Belgique, en Suisse et au Canada pour un documentaire « Fin de vie pour que tu aies le choix » qui est en replay d'ailleurs sur lcp.fr et je vous recommande, vous qui nous écoutez, d'aller le regarder. Je rappelle que vous êtes médecin. Alors, les législations sont diverses. Où est-ce que c'est le mieux jusqu'à présent ? C'est la Belgique ?
Pour moi, oui. Alors, je précise juste que ce documentaire est signé Magali Cotard.
Oui, mais bien sûr.
Oui, pour moi, la Belgique est le pays qui traite cette question avec le plus d'humanité et avec des barrières, moi, qui me semblent quand même extrêmement solides. Patrick Cohen le rappelait, effectivement, c'est 2002, cette loi, donc elle a plus de 20 ans. Les dérives sont rares, les critères sont vraiment rigoureux. Et effectivement, cet homme qui m'a bouleversé, qui témoignait dans cet avou,
Pierre Cousin, il était incroyable.
Pouvait répondre incroyable à la loi belge limite. En France, je ne suis pas sûre qu'il répondrait à la loi française si elle passe telle qu'elle est proposée. Mais en tout cas, les conditions sont quand même très strictes. En 20 ans, ça a été ouvert aux mineurs et je crois que l'an dernier, il y a eu 5 ou 6 jeunes qui ont bénéficié de ce droit, des enfants qui étaient en stade totalement terminal d'un cancer et qui souffraient plus qu'on ne peut souffrir. Donc il n'y a pas de dérive et d'ouverture à n'importe quoi. Mais cette loi, moi, me paraît extrêmement remarquable parce qu'elle inclut beaucoup les médecins dans ce protocole et dans ce geste. Et que moi, et en tant que médecin, je considère que c'est aux médecins qui l'acceptent de faire ce geste pour un patient qui le souhaite, parce que ils le disent tous, c'est le geste ultime de soin. Et effectivement, comme me disent ces médecins, on traite un patient de la naissance à la mort, et le dernier geste d'accompagner la mort en la provoquant, pour moi, est un geste effectivement de soin. J'entends tout à fait leurs propos. Donc notre texte est pour l'instant plus strict que celui de la Belgique, et puis surtout le dernier amendement passé fait que ça sera aux patients de se donner la mort, sauf s'il y a une impossibilité physique à se la donner, mais ça ne sera plus le médecin, si le patient le demande, qui pourra le faire. Et j'en suis profondément désolée, parce que je trouve que ce geste qui est pratiqué donc en Suisse, avec le suicide assisté, est un geste qui est très violent si on n'a pas envie de le faire. On est déjà passé à côté du fait que ce soit un proche qui puisse faire ce geste. L'amendement a été retoqué. Mais voilà, si un patient n'a pas envie lui-même de faire ce geste, je ne vois pas au nom de quoi on empêche le médecin qu'il accepte de le faire. Ça me désole assez, franchement.
Sophie Galabru, choisir sa fin de vie, c'est, là aussi vous en parlez dans votre essai, c'est un sujet philosophique par excellence. L'idée de pouvoir s'emparer de cet instant est aussi vieille que la philosophie grecque.
Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que les stoïciens ou Épicure en parlent. Les stoïciens ne préconise pas ou n'encourage pas au suicide, parce que ça peut être une vulgarisation. C'est plutôt l'idée que en cas de souffrance insupportable et intenable, ou d'un sentiment d'humiliation pour sa dignité, on peut vouloir se retirer du monde par le suicide. Et c'est vrai, par exemple, quand on écoute le témoignage que vous avez passé, c'est ce qu'on entend. On entend quelqu'un. Alors, je sais que les opposants au droit de mourir pourrait dire il se sent surtout pesant pour sa famille. C'est vrai qu'on entend ça, mais en réalité, ou pour son entourage, ou pour la société. Moi, ce que j'entends aussi, c'est la difficulté, l'indignité ou l'humiliation de perdre son autonomie. Alors, dans une proportion qui est telle qu'on ne peut plus rien faire de soi, quoi. C'est ça qui est extrêmement douloureux, sans parler des souffrances physiques, de la perte des fonctions cognitives, parfois physiques, selon les maladies neurodégénératives. Et donc, ça fait partie, en effet, d'un geste profondément humain que de vouloir s'emparer de la fin de sa vie, de la choisir et de la décider lucidement, si on n'a pas envie de s'infliger de telles douleurs et une perte d'autonomie si totale qu'on ne pourra plus rien faire de soi et qu'on est laissé à la dépendance, à la maîtrise totale du corps médical et des autres.
Et de vivre aussi avec ses proches, d'une certaine manière, c'est ce que dit Pierre Cousin, qu'il racontait dans l'interview, hein, qu'il avait même revu un cousin qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, il a fait la fête avec ses amis, avec sa famille, etc. Tout ça, de manière, évidemment, on imagine, c'est pas n'importe quelle fête, mais ça me fait penser à ce livre dont vous parlez, Sophie Galabru, de Noël Châtelet, qui parle de la mort de sa mère, la mère programmée, la mort programmée. Qui était aussi la mère de Lionel Jospin, et elle parle de ces moments radieux, au fond, qu'elles ont vécu ensemble avant la mort de sa
mère. Absolument. Moi, tous les témoignages que j'ai lus sont des témoignages de personnes qui ont, en fait, dans cette histoire de fin de vie et de choix sur la fin de vie, qui ont envie de ne pas être dans une extrême passivité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils apprennent une maladie incurable ou ils entrent dans des souffrances très profondes, psychologiques et physiques, qu'ils doivent devenir de purs objets inertes du corps social et médical, et ne plus pouvoir rien faire de leur vie. Ils revendiquent une forme de créativité, y compris dans ces derniers moments. Et donc, ce sont des gens qui sont assez actifs et qui cherchent à ritualiser cette fin, avoir des conversations, déjà parler du sujet, avoir des conversations ultimes, des gestes, faire parfois des donations aussi anticipées d'objets, etc. Et je pense par exemple aussi à Nicolas Menet, qui était un entrepreneur français de 42 ans, mort d'une tumeur cérébrale, et qui en parle très bien, et qui lui aussi... Alors lui, pendant tout un été, il refuse la médicalisation, il prend un certain risque, mais c'est son choix libre et éclairé pour vivre un été avec ses proches, même s'il souffre ou qu'il est déstabilisé par l'absence de traitement. C'est ce genre de choix et de créativité, moi, que je revendique dans mon livre.
Les mourants ont quelque chose à nous dire, là aussi, parce que vous parlez aussi de Marilyn et Irvin Yalom,
oui,
qui ont écrit un journal, il se trouve que je l'ai lu, qui est absolument extraordinaire.
Il y a quelque chose de très intéressant dans Marina cette maîtrise dont vous parlez de sa fin de vie, et pour l'avoir rencontré avec des patients que j'ai vus en Belgique, c'est qu'à partir du moment où ils ont obtenu l'accord du médecin pour le jour où ils le décideront faire ce geste, ils sont apaisés, et en fait bien souvent ils ne demandent pas ce geste. C'est-à-dire qu'ils ont l'accord, ils savent qu'ils peuvent le demander si à un moment ils n'en peuvent plus, effectivement s'ils veulent choisir à ce moment-là d'arrêter leur vie. Et pour un certain nombre de patients, ils vont jusqu'au bout de leur vie de manière naturelle ou physiologique, je ne sais pas comment l'exprimer, parce qu'ils savent qu'ils pourront le demander. Mais du coup, ils vont jusqu'au bout des discussions qu'ils peuvent avoir, ils vont au bout du courage qu'ils peuvent avoir, ils vont au bout des souffrances, mais ils savent qu'ils peuvent demander ça. Et c'est quelque chose de très étonnant, cette possibilité, avec la maîtrise de choisir sa fin de vie, finalement d'aller au bout.
Oui, parce que je crois qu'il doit y avoir une angoisse très profonde de ne pas d'être, encore une fois, je pense, le pur objet passif de la situation, de la maladie et des autres. Et de savoir qu'on peut en parler librement, sans jugement et avec ce levier, cette possibilité, cette potentialité, je pense que ça peut offrir un soulagement et pour aller peut-être plus loin dans l'épreuve.
Cette forme de liberté, en fait, c'est une liberté. Chacun meurt pour son propre compte, disait Yankelevitch. C'est pas si vrai que ça, parce que ça concerne forcément aussi tous ceux qui vous entourent. Vous avez pu l'une et l'autre parler avec un proche pas loin de la mort, qui savait qu'il allait mourir.
Oui. Je me souviens en particulier d'une conversation avec mon grand-père paternel qui. Michel Galabru. On était loin d'ailleurs de. On était loin de sa mort. Je pense que j'ai eu cette conversation peut-être 10 ans avant, mais moi j'avais besoin de lui en parler parce que j'en avais peur et je ne savais pas quoi en faire. Oui, et c'était difficile de briser ce tabou parce que on a l'impression d'être impudique, d'être violent aussi si on parle à quelqu'un de sa propre mort qui doit l'effrayer, dont il ne sait pas quoi faire non plus à mon avis. Mais j'ai fini par essayer par briser ce tabou pour ce non-dit, pour en pensant que la conversation et l'amour allaient être plus forts. Voilà, et c'est quand même ce qui s'est passé finalement.
Marina Carrère.
Oui, j'ai accompagné ma mère dans sa dernière semaine.
Hélène Carrère.
Hélène Carrère d'Encausse, alors qu'elle était très bien avant, elle n'a pas eu des mois ou des années compliquées. Elle avait un cerveau tout à fait impeccable jusqu'au dernier jour. Et cette semaine, donc où elle était à Jeanne Garnier en soins palliatifs, on était tous les trois, mon frère, ma sœur et moi, l'accompagnés nuit et jour.
Et dormi dans sa chambre.
On avait
comme
ma sœur dormait
petit.
quand on faisait Colcos. ma sœur dormait dans sa chambre parce que la chambre n'était pas très grande et mon frère et moi on dormait dans une chambre de famille. Et puis on errait dans les couloirs à 2h du matin pour voir comment ça. Enfin c'est assez inimaginable. Et pendant cette semaine, on a eu des conversations. Alors pour le coup, elle s'est pas livrée sur elle-même sur des choses comme ça, mais on a beaucoup discuté justement de la fin de vie, de son approche de la mort. Alors elle qui était très aidée par la religion, donc ça a été important dans ces dernières semaines. Mais je sais qu'elle voulait pouvoir maîtriser ce dernier moment, et donc on a beaucoup parlé de ce geste qui est la sédation profonde et continue qui existe dans la loi Leonetti et Claes Leonetti, et elle voulait être sûre que si elle le demande, ça ne serait pas une euthanasie, parce que pour des raisons religieuses, elle était vraiment contre. Et on a eu pendant une semaine des discussions assez étonnantes justement sur cette loi qui arrivait, essayer de comprendre pourquoi moi j'étais pour l'évolution de cette loi. Mais elle avait besoin d'être sûre que ce dont elle bénéficierait restait dans le cadre de la loi actuelle. C'était très étonnant, je dois dire.
Vladimir Yankelevitch, justement, lui.
Ah bien, le temps, c'est la philosophie. C'est le maître problème, c'est le problème par excellence de la philosophie. Il a tous les caractères du problème philosophique, n'est-ce pas ? Évanouissant, et je ne trouve rien de plus beau et de meilleur que la phrase de saint Augustin à propos du temps, n'est-ce pas ? Quand on me demande pas ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. Et c'est pour moi une évidence merveilleuse. Mais dès qu'on me demande ce que c'est, alors je m'embrouille. Je commence à chuchoter, à barguigner, je ne sais plus où j'en suis. Et donc je ne peux reconnaître son évidence que de loin. Et de près, il me fuit.
C'est l'insaisissable, alors ?
Mais l'insaisissable philosophique, c'est une évidence inévidente.
Oui.
Évidente de loin, approximativement, et redevenant évidente quand on a le dos tourné, mais inévidente quand on la regarde de près. Vous savez, c'est comme la parabole d'Animus et d'Anima, n'est-ce pas ? Quand Animus regarde par le trou de la serrure, Anima cesse de chanter. Et quand par hasard il s'éloigne, Animus, alors Anima recommence à chanter. Mais quand on ne la regarde pas, eh bien tel est le temps. Quand vous le regardez dans les yeux, alors le temps, c'est plus rien, ce sont des points, c'est une série, comme dans la musique dodécaphonique, c'est des allumettes que vous rangez les unes à côté des autres, ou des jeux d'enfants. Mais quand vous regardez quelle est son essence, quand vous regardez le temps dans le blanc des yeux, le temps s'enfuit.
Je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur Yankelevitch, si vous m'y autorisez. Ce qu'il va y avoir la diffusion d'un documentaire le 2 juin prochain sur LCP, Penser la vie. Ne le manquez pas, parce que c'est un documentaire absolument formidable, et c'est d'après la biographie de François Schwab, qui a été son élève et son ami, et que nous avions reçu ici même lorsque le livre était paru. Évidemment, la dernière fois, Sophie Galabru, ça a à voir avec le temps. C'est un autre tempo aussi qui se met à exister.
Oui, oui, bien sûr, c'est un livre sur le temps, mais surtout dans sa qualité, sa structure irréversible. Sur le fait qu'il ne cesse pas de passer et que tout ce qui passe ne se rejouera pas, ne se retrouve pas. C'est un livre, mais c'est aussi un livre, quelque part, sur la puissance et l'impuissance, la maîtrise et l'immaîtrise. C'est-à-dire que le temps, c'est quand même ce qui nous excède et ce qu'on ne maîtrise pas, par définition, et c'est ce qui nous fait souffrir. On parlait du besoin de maîtrise parce que nous sommes des êtres libres qui cherchons l'autonomie et une forme de maîtrise, mais évoluer dans le temps et vivre et mûrir et vieillir, c'est quand même aussi apprendre à faire le deuil de son impuissance.
Vous écrivez « Être à l'instant parce que précisément j'aime vivre et non parce que j'ai peur de le perdre ». Ça, c'est dans l'épilogue que vous écrivez ça.
Oui, oui. Moi, je crois que ce livre me permettait de travailler le deuil de ma puissance et de mon désir de maîtrise. On ne peut pas toujours, tout capter et éterniser.
Mais ça, on l'apprend, non, qu'on ne peut pas tout maîtriser, Marina Carrère d'Encausse?
Oui, on l'apprend, mais c'est pas parce qu'on l'apprend que d'abord qu'on l'accepte. C'est plus complexe que ça. Et puis, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord sur ce temps qui, c'est tout un travail pour certaines personnes plus que d'autres encore d'accepter effectivement cette impossibilité de maîtriser ce temps qui passe.
Mais vous, par exemple, compte tenu de ce que vous racontiez tout à l'heure, cet accident que vous avez eu alors que vous étiez très jeune, ça a forcément modifié votre rapport au temps aussi.
Complètement. Ça l'a complètement modifié parce que je vis chaque jour en plus. Donc depuis, j'ai eu des enfants, j'ai des petits-enfants, je travaille, j'ai fait énormément de choses, mais chaque instant est un temps gagné que je n'aurais pas dû avoir. Et c'est à la fois merveilleux et complexe à vivre.
Complexe pour vous ou pour l'entourage? Parce que vous avez dit tout à l'heure aussi que vous n'aimiez pas qu'on vous gâche les moments.
Non, pour les deux. J'ai une exigence qui est, je pense, problématique, qui se calme un petit peu avec le temps qui passe, mais qui était très, très vivante et très importante peu de temps après mon accident, oui, bien sûr.
Un fragment, c'est un morceau, c'est aussi une partie. Il en faut parfois 80 pour donner vie et consistance au discours amoureux, c'est le cas de fragments d'un discours amoureux, de Roland Barthes.
J'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention à trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque. Parce que finalement, mes fragments, en tout cas les fragments idéaux que je voudrais produire, ne seraient pas tellement extravagants. Je veux dire, ce qu'on appelle le fragment, c'est quelque chose qui a des contours très irréguliers. C'est parce que ce qu'on appelle en mathématiques les objets fractales ou fractaux, ce sont des objets déchiquetés comme les côtes de la Bretagne. On donne toujours ça en exemple, les côtes du littoral breton. Or, en réalité, j'aimerais beaucoup des fragments qui auraient un certain calibre, une certaine dimension, une certaine régularité. Mais ce qui me plaît, encore une fois, c'est l'interruption. C'est ça qui me plaît. Et aussi la fin, dans la mesure où la fin du fragment pose un problème de composition, disons, intéressant, à savoir qu'il faut bien finir le fragment sans le finir sur un coup de trompette.
J'adore ça. Donc, ce qui lui plaît, c'est l'interruption. Il faut bien finir le fragment sans le finir sur un coup de trompette. Roland Barthes, évidemment. Sophie Galabru, évidemment.
Bah oui, non, c'est très beau ce qu'il dit. J'aime bien les plaisirs d'attaque parce que je veux mettre fin ou rompre avec le rien qui précède. Et c'est vrai que ça peut expliquer le fait qu'il y ait des êtres, comme je dis, qui adorent les commencements, les débuts, la première fois, parce que c'est... Oui, c'est initier quelque chose, c'est ouvrir la série du temps et c'est se promettre, en tout cas on le pense, des péripéties, un remplissage, alors que la dernière fois fait peur parce qu'elle a l'air de nous faire rejoindre le rien. Mais en réalité, je crois que c'est plus compliqué que cela. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il explique qu'il faut quand même finir le paragraphe, ce qu'il écrit. La conclusion permet aussi de faire de ce paragraphe ou du récit un tout. Mais c'est marrant, il dit ne pas finir que sur un coup de trompette. Je suis encore en train de méditer là-dessus. Est-ce que ça veut dire ne pas finir en fanfare, lyriquement ou de manière trop marquée? Sans doute, il y a une façon de finir, peut-être de manière non lyrique ou dramatisante, qui est peut-être plus intéressante.
Par exemple, finir un amour.
Oui, Si tant est qu'on peut finir un amour, parce que quand on a commencé à aimer un être de manière complètement entière, c'est-à-dire engagé dans tous les pans de son être et de sa vie, je ne sais pas si on achève ou on finit un amour.
Sont des seuils à ce moment-là, les dernières fois, vous diriez qu'on franchit un seuil?
C'est-à-dire que du point de vue du temps, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et Jean Kelevitch était d'accord avec Bergson là-dessus, et je le suis aussi, le temps est processuel, la durée, c'est ce qui ne s'arrête pas. Donc en fait, c'est totalement arbitraire de dire première et dernière fois. C'est nous qui avons besoin intellectuellement ou scénaristiquement de marquer, de débuter son paragraphe, son milieu et sa fin. Mais tout est absolument enchevêtré. En réalité, tout continue de résonner. Ce qui a eu lieu il y a 5 ans peut encore résonner en moi et résonnera encore et trouvera une autre tonalité dans des événements futurs. Donc, c'est un besoin scénaristique de raconter sa vie, de lui assurer une cohérence et une organisation. En fait, c'est marquage. Et oui, il y a des moments, quand même, dans sa vie, on a l'impression qu'une tranche de vie se décolle d'une autre, qu'on rentre dans une autre phase. Il y a des seuils.
Vous évoquez un certain nombre de ruptures, hein, de ruptures de dernière fois, pardon, je fais des lapsus, de dernière fois dans votre livre, et il y a la rupture des amitiés juvéniles notamment. Et vous racontez que vous étiez très jeune et vous aviez moins de 20 ans, et une très très bonne amie à vous, vous étiez très proches toutes les deux, s'est tout à coup volatilisée, il n'y a pas d'explication, et c'est quelque chose dont on sent que ça vous hante encore aujourd'hui.
Je sais pas si ça me hante aujourd'hui parce que
en tout cas suffisamment pour que vous ayez envie.
Oui, par contre, ça a été
d'écrire dessus.
Ça a été un moment sidérant, presque un peu traumatisant parce que c'était une amitié très fusionnelle, décisive. C'est même une amie qui m'avait quelque part donné le goût de la philosophie, que j'admirais beaucoup, qui était un peu plus âgée que moi et à laquelle je m'identifiais. Et donc sa désertion était brutale et choquante, inexpliquée, mais en même temps, elle m'a donné le champ libre pour advenir à qui je devais être. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais elle m'a donné le champ libre pour devenir quelqu'un un peu à part entière. Parce que c'est vrai que quand on est très très jeune, on a tendance, pour s'émanciper de sa famille, de ses parents, des modèles dont on a hérité, parfois de s'appuyer sur les amis qui sont des nouveaux modèles, des lieux, oui, pour s'émanciper. On est dans la confusion avec eux, nos frontières ne sont pas claires, on s'imite, il y a de la confusion et parfois un peu, c'est presque un peu une petite folie, et parfois pour en sortir, il y a ce genre de fuite brutale, je pense, de l'un ou de l'autre des parties. Et c'est pas plus mal pour revenir à soi ou le devenir.
Ou devenir quelqu'un d'autre?
Ou tout simplement revenir à soi, ou essayer de se construire, de se trouver soi-même.
Et plus, ça aussi vous en parlez, plus on est jeune en fait, et plus à ce moment-là, la dernière fois se passe comme... C'est une effraction quoi dans la vie. En fait.
Ça je sais pas, je pense que même... Oui, alors bon, quand on est plus habitué des ruptures et des deuils, peut-être que c'est moins sidérant, et encore que...
Mais on ne s'habitue pas, c'est pas...
On
c'est
s'habitue pas. L'habitude.
Non, mais peut-être parce qu'on vit les choses d'une manière très, 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 très intense quand même, quand on est jeune.
Oui, on peut les vivre de manière plus intense, plus dramatique, et on a moins les ressources pour croire qu'on va surmonter ces épreuves-là, ou qu'on a la vitalité suffisante pour... Mais je pense que les deuils, les ruptures, mais surtout les deuils et la mort restent quelque chose qu'on découvre, comme dit Yankelevitch, toujours pour la première fois. Même si on en a eu 10 derrière
bien
soi.
Sûr.
Ce qui est très
Marina
complexe dans ces ruptures amicales, voire amoureuses, à la différence de la mort, c'est que c'est une dernière fois pour nous, mais ces personnes-là continuent à vivre, et c'est une première pour d'autres. Et avec ces personnes-là. Et ça, je trouve que c'est ça aussi la souffrance de ces dernières fois, qui ne sont pas les dernières fois pour tout le monde, finalement. Quand quelqu'un meurt, c'est la dernière fois pour tout le monde, tous les proches. Et c'est ce qui rend, je trouve, ces ruptures extrêmement douloureuses, d'être le seul à vivre cette dernière fois.
Oui, c'est vrai. Oui, il y a quelque chose parfois, surtout si c'est une rupture qui est pas du tout d'un accord mutuel et qui est subie. C'est une dernière fois, surtout pour soi, et on a l'impression que l'autre lui court vers sa première fois plus rapidement que nous.
Alors, je vous garantis qu'avec cette chanson, vous allez être en larmes. C'était bien, Bourvil.
C'était tout juste après la guerre. Dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.
Sophie Galabru et Marina Carrère-Danco sont les invités de l'heure philo sur France Inter. Il y aurait comme un petit air, une petite nostalgie.
C'est tellement doux, c'est tellement tendre, c'est tellement nostalgique. Enfin, c'est magnifique.
Hein. Ouais, c'est tendre et c'est la nostalgie heureuse. Ouais. Pour vivre. Mmh.
Et comme vous le disiez pendant le disque, il n'y a plus de voix comme ça.
Il y a une voix très particulière. On n'en entend plus comme ça. Mmh.
Muriel Robin, c'est dans un extrait donc on va écouter du documentaire « Alcool au féminin, elle brise un tabou ». Marina Carrère-Danco, vous y avez interviewé différentes femmes. Et Muriel Robin se confie à vous, elle dit comment elle a pu s'arrêter de boire. Et sa compagne y est pour quelque chose.
Elle m'a dit « si tu veux ». Elle m'a vu plusieurs fois, boire beaucoup, elle n'aimait pas beaucoup. Une fois, elle m'a filmé. J'ai vu le film, j'ai eu honte. Mais c'était pas un état normal.
C'était pas vous?
Non, c'était pas. Je trouve que je suis beaucoup mieux sans alcool. Franchement, c'était trop, c'était outré, c'était trop, ça n'allait pas, c'était pas. Donc c'est vrai que je pense que là il y a eu une première piqûre et puis après c'était, écoute, moi si tu veux boire une bouteille de champagne tous les soirs, c'est ta vie. Mais moi, j'ai trop peur de te perdre. Et entre la cigarette et l'alcool, je peux pas voir quelqu'un qui se détruit, donc on arrêtera. On arrête l'histoire. Et sur le coup, je me suis dit, mais oh, je fais ce que je veux, j'ai un peu de caractère quand même. Et puis, ça a fait son chemin et je me suis dit que j'allais perdre beaucoup. Il m'a fallu du temps et c'était long. Incroyable, parce que je me souviens que, je l'ai dit à Anne d'ailleurs, je pense que c'était il y a maintenant peut-être un an et demi, où j'ai senti que émotion n'égalait plus alcool. Donc là, je me suis dit, c'est gagné.
Vous êtes fière de vous?
Oui.
Vous pouvez.
Ouais. Ouais, parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est long. C'est long, mais ça vaut le coup.
C'est pas facile non plus de parler de ça, et on sent bien, Marina Carrère-Dancos, sans vous flatter, mais que quand même il y a eu quelque chose entre vous. Vous êtes allé la voir chez elle. Elle vous a fait confiance probablement parce qu'elle vous a un tout petit peu connue avant, sans que vous soyez forcément copine. Mais dire ça face caméra, c'est pas évident du tout.
C'est très compliqué. Il faut beaucoup de courage, parce que c'est ce que Alexandra Combe montre dans ce documentaire, c'est que l'image de la femme alcoolodépendante n'a rien à voir avec l'image de l'homme alcoolodépendant, buveur excessif. Il y a une vraie image discriminante, extrêmement négative, de faiblesse. Enfin, c'est très compliqué d'accepter de reconnaître qu'on a été dépendant à l'alcool. Donc je remercie tous ceux qui ont témoigné, parce que vraiment ces femmes ont une force et un courage incroyables. Et puisqu'on parlait dernière fois, l'énorme difficulté, d'abord une fois que ces femmes acceptent, sortent du déni et acceptent de reconnaître qu'elles ont un problème avec l'alcool, c'est d'accepter l'idée de la dernière fois, du dernier verre. C'est extrêmement difficile. C'est Noémie Lovski le dit très bien. Elle a été en deuil pendant un an et demi. En deuil d'une amie, en deuil de quelqu'un qu'elle a perdu. Parce que ne plus pouvoir, que ça soit vraiment le dernier, quelque chose de trop douloureux, c'est bien pour ça que beaucoup de femmes ne vont pas consulter, parce qu'elles n'ont pas cette force d'avoir le dernier. Et c'est pour ça aussi que les addictologues, aujourd'hui, ne sont plus forcément dans le tout ou rien. C'est assez nouveau comme prise en charge, mais il y a des patients pour lesquels il sera possible de continuer à boire un peu, s'ils sont capables de maîtriser leur consommation. Donc, ne plus dire forcément « demain, ça sera le dernier » permet à plus de personnes de venir consulter et éventuellement de s'arrêter ou de diminuer. C'est extrêmement important, cette nouvelle vision de l'addiction et de l'arrêt.
Oui, parce que c'est valable en fait pour toutes les addictions, hein. Mais c'est une façon de mettre, d'une manière ou d'une autre, fin à une emprise, à l'emprise.
Absolument, mais une emprise qui extérieurement vous fait du bien et vous aide à supporter, notamment chez les femmes, des douleurs et des traumatismes très importants. Donc c'est une aide, malgré tout, une fausse aide, mais une aide quand même.
Sophie Galabru, quand on parle de ce sujet, on pense évidemment à Gilles Deleuze, qui dit « un alcoolique ne cesse pas d'être au dernier verre hein, », et qui a dit que c'était, au fond, ce qui lui plaisait à lui, il a dit qu'il avait bu, c'était l'ivresse, au fond. C'est ça aussi qu'on perd avec le dernier verre.
Oui, il dit quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé, il pense que la toxicomanie et l'alcoolisme, ça peut être, entre autres, hein, une recherche, non pas du dernier verre d'ailleurs, mais de l'avant-dernier, c'est-à-dire de flirter. C'est une histoire de maîtrise, de puissance ou d'impuissance, essayer de trouver le seuil jusqu'où on est assez puissant pour supporter cela, avant l'effondrement. Lui, il en parle comme ça. Et donc, c'est une approche assez comptable, compter les verres, chercher l'avant-dernier, celui qu'on peut encore supporter, qui peut aussi peut-être exciter la toxicomanie ou l'addiction, entre autres.
Ouais. Et c'est aussi une façon de reconquérir un désir et de retrouver, comme le dit Barthes, sa quille intérieure.
Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant ce changement de paradigme pour soigner la toxicomanie, parce que il y a certaines personnes, en effet, qui, si elles sont dans cette approche comptable ou décrète brutalement, c'est le dernier, ont des rechutes et un taux de rechute énorme. Comme si l'approche purement comptable ne sert absolument à rien.
Mais il y a un manque.
Exciter une transgression. Et donc, il faut aussi une approche qualitative, même s'il y en a qui ont besoin d'être aidés médicalement par une équipe, mais un travail, je veux dire, thérapeutique, de réflexion. D'ailleurs, on l'entend avec Muriel Robin. C'est-à-dire l'image de soi, l'estime qu'on a de soi, le rapport à l'autre. Parce que il arrive aussi que le dépendant chimique ou à une substance soit aussi quelqu'un qui a peur de la dépendance affective, de ne pas pouvoir maîtriser l'autre, le temps, la mort, et donc on maîtrise plus un verre de vin ou la bouteille de champagne à côté de soi. Donc c'est un travail à faire sur la perte de maîtrise, ne pas maîtriser certaines choses et certains paramètres de sa vie, et aussi la réflexion sur le plaisir, sur le bonheur, sur l'estime de soi. On peut pas juste être dans une approche, à mon avis, comptable.
Et il y a, alors là, c'est justement pas du tout ça, mais par exemple, Trintignant, que vous citez, qui dit il faut fumer sa dernière cigarette, la cigarette qu'on s'apprête à fumer, comme si c'était la dernière, le verre qu'on va boire comme si c'était le dernier, l'amour qu'on va faire comme si c'était la dernière fois.
Ah oui, il dit ça pour intensifier, en rejoignant cette maxime à la fois stoïcienne et populaire, vis chaque instant comme si c'était le dernier, mais c'est aussi une manière d'intensifier et de dramatiser. Et moi d'ailleurs, qui n'ai pas été une grande fumeuse, mais je sais que quand je comptais pour maîtriser ma consommation, c'était le plus sûr moyen moyen de transgresser ou d'excéder le compteur. Donc, je crois que c'est plutôt quand on arrête de compter, qu'on est dans un rapport, on réfléchit à ce qu'on ressent, au plaisir qu'on a, ou au déplaisir, à la douleur, ou à notre rapport aux autres, qu'on dévie son désir, on réoriente sa vie, je crois.
Qu'en dit le médecin, en un mot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Effectivement, tout à fait d'accord, et pour revenir sur les addictions, c'est effectivement... Il y a des manques physiques. L'important, c'est tout ce qui est autour et c'est tout le manque psychologique et de savoir pourquoi, effectivement, on ne veut pas passer ce cap et franchir ce cap du dernier verre parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, justement.
Nos dernières fois, défier la nostalgie. C'est donc le titre de l'essai que vous avez publié, Sophie Galabru. C'est chez Alary Éditions. Et Marina Carrère-Dancos, eh bien, il faut aller, vous allez, j'imagine, continuer d'aller voir comment les autres s'y prennent pour vivre. Il y a ces deux documentaires,
bien sûr.
Alcool au féminin et Le brise un tabou et Fin de vie pour que tu aies le choix. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci.